Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Une nouvelle importante ce matin, c'est une percée majeure dans le traitement de la leucémie. Les résultats d'une recherche ont été présentés à Paris dans le cadre d'un congrès annuel de la Société internationale de la thérapie cellulaire et génique. Et il y a des chercheurs québécois qui ont été honorés, qui ont pu présenter donc les résultats de leur recherche et qui ont aussi reçu parmi une quinzaine de pays une distinction. Il s'agit du docteur Denis-Claude Roy, qui est le directeur scientifique de l'Institut universitaire en hémato-oncologie et en thérapie cellulaire de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Docteur Roy, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Arcan.
Ben, d'abord, avant de parler des prix de distinction, parlez-moi de la recherche des travaux que vous avez présentés. C'est donc un traitement pour la leucémie.
Oui, exactement. Écoutez, quand on fait une greffe de moelle, on compte beaucoup sur les cellules du donneur pour éliminer les cellules leucémiques du patient. Mais quand on fait ça, on infuse des cellules du donneur qui pourraient aussi s'attaquer au tissu sain. Alors, on a essayé d'être spécifique. Et ce qu'on a réussi, notre groupe à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Université de Montréal, là, c'est qu'on a trouvé une façon d'isoler et de faire se multiplier en laboratoire ces rares cellules du donneur qui sont capables de reconnaître les cellules cancéreuses du patient et puis de les faire pousser en nombre significatif pour être capable de traiter des patients dans une étude clinique. Alors, on les a donnés à des gens qui étaient les pires patients, des patients qui avaient rejeté déjà après une greffe de moelle osseuse, et on leur a donné ces cellules-là pour combattre leur cancer. Alors, c'est une première mondiale, là, ici.
Mais c'est important...
Allez-y.
Non, je voulais dire, c'est important parce que, dans le fond, ce que vous dites, c'est qu'on prend les cellules bonnes pour lutter contre le cancer, mais on les prend elles seulement.
Oui, exactement. Vous avez super bien compris. Alors, l'idée, c'est que on a été capable d'isoler là, les rares cellules du donneur qui sont capables de reconnaître les antigènes, les cellules leucémiques. On les fait pousser en laboratoire. On les donne en injection intraveineuse à des patients. Et ces cellules-là sont capables de s'attaquer aux cellules leucémiques. Et elles n'ont pas causé dans notre étude, qui était quand même une étude préliminaire. On a traité 10 patients, mais il n'y a pas eu d'effet secondaire significatif. On n'a pas vu vraiment d'effet contre les tissus normaux du patient, mais au contraire, on a observé une activité contre le cancer. Et ça, c'est naturellement très, très intéressant. Puis ça ouvre la porte à plein d'autres traitements, là. Puis je voudrais peut-être souligner que ça a été possible grâce au support de Génome Canada, Génome Québec, Biocanérix, la fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, M. Ronald et Herbert Black. Puis pour les travaux de mon étudiant, qui est un post-doctorant, là, un bonhomme avec un PhD, qui travaille à optimiser, à développer des nouvelles stratégies anti-cancer à Nasser Masrouri, ben lui, a gagné lui aussi le prix, un des trois prix pour les meilleurs travaux par un assistant de recherche, un associé de recherche. Et ça a été supporté par Sandra et Alain Bouchard avec la Fondation de l'hôpital Maisonneuve.
Et vous, Dr. Roy, vous avez été aussi honoré donc parmi des représentants d'une quinzaine de pays. Et il y a deux Québécois qui sont sortis du lot.
Alors, exactement. Écoutez, on a gagné deux prix parmi 15 prix, une quinzaine de prix là, qui ont été administrés. Il y avait des gens de partout sur la planète. On est extrêmement fiers d'avoir reçu ce prix-là là, qui nous honore comme le meilleur travail canadien en thérapie cellulaire et génique.
Mais ce que je veux souligner, puis on le fait, on a à quelques reprises fait des entrevues ensemble, c'est toute l'importance de la recherche qui se fait ici et qui bénéficie, vous venez d'en faire la démonstration, à des patients en premier lieu. Si cette recherche avait été faite ailleurs, ben ce sont pas des patients d'ici qui en auraient profité nécessairement. Et donc, le développement de ces nouvelles approches qui vont s'appliquer dans le futur pour aider des gens peut-être à combattre mieux le cancer, peut-être à s'en sortir, à avoir moins d'effets, ça passe par des travaux de recherche, puis ça passe par des travaux qui sont réalisés par des gens comme vous puis vos équipes.
Ah, absolument. Puis c'est extrêmement important que vous le souligniez, M. Arcan. Et ça, ça s'adresse à plein d'autres maladies. Là. Donc, nous, on fait des travaux dans ce domaine-là. Toute l'équipe à l'hôpital Maisonneuve, on développe ça, mais on développe aussi des stratégies contre d'autres cancers, contre des infections. On a des chercheurs qui travaillent pour utiliser des cellules pour guérir des maladies des yeux, remplacer la rétine, maladies pulmonaires, des maladies cardiaques. Là, pratiquement tous les organes peuvent être ciblés dans des approches comme celle-là. Et puis, si vous avez deux minutes, je voulais peut-être vous donner un exemple là, qui est assez futuriste, là, mais qui montre l'utilisation de cellules. Là. Il est même possible aujourd'hui d'utiliser une imprimante en trois dimensions, là, une imprimante 3D, mais au lieu d'imprimer sur du papier ou de faire un modèle en plastique, là, on va utiliser des cellules. Il y a des gens qui sont en train de faire des poumons avec différents types de cellules à différents niveaux pour refaire une structure aussi complexe que celle d'un poumon. Il y a d'autres groupes, nous-mêmes, qui travaillons à utiliser des morceaux de cellules pour injecter, pour induire au toit des effets de réparation des tissus ou de bloquer le système immunitaire quand c'est pas le temps, puis de l'activer dans d'autres situations. Alors, écoutez, c'est tout un domaine d'avant-garde là, qui se développe à grands pas. Puis au Québec, on a un leadership. Là. Il faut le mentionner, là, on a un leadership. Nos chercheurs québécois sont extrêmement bien positionnés sur l'échelle nationale et internationale. On a une force ici là, qu'on est capable de développer pour le bénéfice de nos patients ici au Québec et qui va bénéficier aux patients à travers le monde. Puis il y a un impact économique aussi. Là. On développe notre expertise, notre savoir-faire et puis on développe une nouvelle industrie là, dans le secteur.
Mais au moment où vous me parlez, vous êtes à Paris, à Chicago en fin de semaine, il y avait un congrès aussi sur les nouveaux traitements pour le cancer du poumon, puis il y a des espoirs qui apparaissent avec des traitements plus ciblés, un médicament avec de la chimio pour des gens qui ont un cancer du poumon localisé. C'est un autre exemple, là, puis vous me parlez de d'autres types d'organes touchés. C'est fascinant de voir l'évolution depuis les dernières années.
Absolument. Puis là, on parle. Il y a eu beaucoup d'avancées en leucémie. Comme vous le savez, les leucémies sont des maladies souvent rapidement mortelles en quelques mois. On réussit à avoir des survies maintenant qui peuvent aller de 50 à 80 dépendant des différents types de maladies. Donc, les cancers du sang sont non seulement traitables, mais curables. On est capable de les guérir. Et puis, on développe des nouveaux traitements pour d'autres maladies du sang, et maintenant, ça se développe dans plusieurs cancers. Déjà, les traitements sont déjà avancés pour plusieurs autres. On parle de cancer du poumon, cancer du sein, cancer de l'intestin, cancer du foie. Donc, il y a des nouveaux traitements là, qui sont actuellement en développement et le fait d'être capable de jouer avec les cellules, là, qui en fait, grâce à notre centre de thérapie cellulaire qu'on a développé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui nous permet de moduler les cellules, de leur ajouter, par exemple, un bras qui va leur permettre d'aller s'attacher là, directement aux cellules cancéreuses puis éliminer spécifiquement ces cellules-là. Écoutez, ce sont des avancées qu'on n'aurait pas pensé possibles il y a seulement quelques années. Là. Mais avec les avancements de la science et de la recherche, comme vous l'avez mentionné, ben, on réussit à faire ces avancées-là. Et puis, c'est des patients qui en bénéficient. Puis, on fait pas seulement améliorer la survie, là, mais on améliore la qualité de vie. J'ai vu des gens dire, écoutez, j'ai vu mon cancer fondre. Et puis, j'ai pas d'effet secondaire, là. Écoutez, ils nous disent, ça n'a pas de bon sens comparé à la chimiothérapie que je recevais auparavant, là. Pourquoi vous n'avez pas toujours des stratégies comme celle-là?
Docteur Roy, bravo, et ainsi qu'à toutes vos équipes. Merci d'avoir pris ce moment avec nous.
Merci beaucoup, M. Arcan.
Docteur Denis-Claude Roy, qui est le directeur scientifique de l'Institut universitaire en hémato-oncologie et en thérapie cellulaire, donc relié à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il ne le dira pas parce qu'il est modeste, mais c'est une des sommités dans le monde concernant le développement de ces approches. Je raconte une anecdote. Un jour, un patient québécois se dit « Je vais aller aux États-Unis en pensant que c'est toujours meilleur ailleurs. » Et il rencontre un médecin qui lui dit « Mais pourquoi vous venez ici aux États-Unis? Le meilleur est chez vous à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. » Et c'est le docteur Roy. Et le monsieur est retourné donc pour se faire traiter au Québec.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
La petite Italie, pour moi, évoque l'histoire familiale, évoque mes enfants. Puis je pense que je vais mourir dans ce quartier-là. J'ai une vie mouvementée, je veux dire. Tu sais, moi, dans une journée, là, il y a plein d'affaires qui peuvent arriver. On gère une compagnie de produits en épicerie, puis on est en croissance.
C'est assez incroyable, Catherine. Il a trouvé le temps de venir ce matin en studio. Quand on écoute, moi j'ai regardé toi aussi les deux premiers épisodes, on se dit là, il y a 28 heures dans une journée, grosso modo. Stéphano est avec nous, bonjour.
Salut Paul.
Et c'est un docu-réalité, Stéphano, sur la plateforme Vrai, c'est disponible à partir d'aujourd'hui.
Oui. La question. je l'attendais, celle-là.
Non, mais la question, c'est que comment tu fais pour...
Tu dors-tu?
Ben, tu dors. Ouais, bonne première. Mais de toucher à ça, c'est-à-dire de t'as une famille, t'as des travaux de rénovation, t'as ta compagnie, t'as tes produits, puis t'as des projets. Ouais. On met tout ça ensemble.
Je vais répondre en disant que une des grosses parties de cette docu-série que je voulais démontrer, c'est que j'ai une équipe. Puis Stéphano, c'est pas juste Stéphano. Tu sais, Stéphano, il y a une grande famille. Puis quand je dis famille, je parle de ma mère, ma blonde, mes enfants, mon associé Michele, Caroline, qui est ma directrice de marketing, Benjamin, qui est mon directeur d'opération dans les restos, tous les cuisiniers, tous les serveurs. Je veux dire, on est une gang, tu sais. Puis pour être capable, moi, de faire qu'est-ce que je fais, j'ai besoin de tous ces gens-là. Puis je les remercie parce que c'est à cause d'eux autres, là. Fait que c'est comme ça que je suis capable. Par contre, je grouille dans une journée, là. On s'entend. Hey, je bouge.
Tu surveilles, tu calcules le poids de la farine pour les pizzas pour pas qu'il y ait gaspillage. Fait que t'as une équipe, mais t'es quand même pas pire.
Mais puis tu sais, je suis là à les moments clés. Tu sais, dans les restos maintenant, ils sont quand même bien gérés. On a une bonne équipe. Fait que moi puis Michele, on est là au moment clé pour prendre les plus grosses décisions. Tu sais, on est bien entouré dans la compagnie d'aliments. Mais j'ai aussi mon équipe. On est une petite équipe. On travaille tous ensemble. Je suis beaucoup plus impliqué de ces jours-ci dans la compagnie de produits que les restos, tu sais. Puis c'est ça que je disais tantôt, c'est que, tu sais, dans la docu-série, on voit aussi que Stéphano, il a enlevé un peu son chapeau de cuisinier, puis il porte un peu plus son chapeau d'entrepreneur, tu sais. Puis la réalité dans ma vie aujourd'hui, c'est ça. Tu sais, je cuisine encore, j'ai du plaisir à cuisiner, je cuisine encore pour nos médias sociaux, tu sais, parce qu'il faut qu'on soit là-dessus pour, tu sais, avec comme tout le monde, mais tu sais, je cuisine à la maison, mais je cuisine moins qu'avant, tu sais.
Mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est que j'ai découvert, comme tous les Québécois, Stéphano a une émission de Josée DiStasio avec Gilbert Sicotte, où il faisait de la pizza, et ça se terminait, cette émission-là, tout le monde s'en souvient au Québec, Stéphano sur un vélo l'hiver.
En plein d'hiver, puis je livrais une pizza.
Oui, et c'est parti de là,
puis en fait. Catherine, qui a encore du monde qui nous écrit pour dire « Hey, livres-tu encore des pizzas?
» Et là, t'es rendu avec une multinationale quand même.
Ben, tu sais, multinationale, oui. Tu sais, la compagnie d'aliments, elle a eu une forte croissance les six dernières années. Tu sais, je veux dire, on a une panoplie de produits au Québec. Nos sauces, que c'est notre produit fort, si on veut, qui est maintenant rendu dans plus que 2000 points de vente à travers du pays au Canada. Donc, tu sais, oui, tu sais, mais encore là, j'ai des bonnes personnes autour de moi, tu sais. Je veux dire, tu peux pas faire ça tout seul. Tu sais, le monde, tu sais, c'est pas juste moi, je dors, faites-vous-en pas. Je me réveille le matin. Tu sais, un matin, moi, je suis un gars matinal, je me réveille à 5 heures à tous les matins, je vais m'entraîner. Ma blonde, elle pense que je suis fou un peu, mais tu sais, je vais m'entraîner, ça me fait du bien, je pars ma journée. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, j'essaye d'être organisé comme ça, là.
Mais là, tu nous décris le volet commercial qui est bien intéressant, mais dans la série, on voit le volet personnel.
Oui, absolument.
Parce que, puis je trouve ça intéressant, bon, ton père est décédé, ce qui évidemment te bouleverse, et c'est ta mère aussi, là.
Oui.
Mais le retour au village et de rencontrer les membres de la famille de ton père, c'est extrêmement touchant de voir ça.
Oui, et c'était vraiment, là tu vas me rendre émotif, Paul, mais là, non, mais c'était vraiment un beau, tu sais, on a bouclé la boucle. boucle finalement. T'sais, on a retourné, eux, ils pouvaient pas venir aux funérailles à cause du COVID et t'sais, des restrictions. Donc, nous, quand on est allés, t'sais, on a fait un gros lunch, tout le monde était là. Puis, tout le monde, ma mère, elle m'a dit, tu vas voir, le village va débarquer. Puis comme de fait, tout le monde a débarqué, tout le monde est venu nous voir, les vieilles tantes de mon père étaient là. T'sais, on a célébré, puis je pense que mon père, il aurait voulu que ça soit comme ça, tu sais. Fait que, en tout cas, fait que c'est ça.
C'est un homme plus non, de l'ombre. Oui, exact. Ouais. Parce qu'on voit plus ta mère.
Oui, exactement. Tu sais, mais... fait que, tu sais, de mon père, j'ai appris la sagesse. J'ai appris la patience. Là, tu vas me dire des fois, ma blonde, elle doit vous dire, oh non, il est pas patient, mais en tout cas. Mais j'ai appris la patience. Tu sais, fait que c'était vraiment le fun de me retrouver là avec ma mère.
Je veux dire une chose. Je vois souvent ta mère parce que je vais prendre un café pas loin de la quincaillerie. Bon. Puis je l'ai vu samedi passé.
Oui.
Puis j'ai dit, Stéphano vient nous voir la semaine prochaine et tout ça. Puis elle me parlait du décès de son conjoint. Puis j'ai dit, elle dit, moi, tu vois, là, je suis hyperactive, je suis énervé.
Ouais.
Lui, il me calmait.
Absolument.
À la maison, là, on décompresse, on prend ce calme. Oui, tu te promènes entre les tablettes, là, mais ici, calme, la force tranquille.
C'était l'équilibre, finalement. C'était vraiment ça, mon père, tu sais. Dans ma vie aussi, finalement, c'était vraiment l'équilibre. Fait que c'était, tu sais, c'est quelqu'un qui nous gardait terre à terre, puis c'est un, tu sais, je pense que c'était ça son rôle, je pense, pour moi, dans ma vie, là. Puis, tu sais, j'ai appris de ça parce que le COVID a passé, puis moi aussi, tu sais, ça m'a donné une chance de m'arrêter un peu plus, de passer un peu plus de temps avec mes enfants. Fait que maintenant, c'est très difficile pour me faire sortir de mon quartier. Je viens de voir, mais mettons pour d'autres choses, je vais souvent dire non parce que je calcule plus, je dis combien de temps ça va m'enlever de mes enfants? Est-ce que ça vaut la peine? Parce que sinon, tu sais, je vais manquer, puis ça me tente pas. Fait que, tu sais, mais je suis occupé pareil, tu sais. Puis comme je disais à Catherine, je veux dire, tout entrepreneur fait des sacrifices. Ouais. C'est sûr que c'est la famille que tu sacrifices en premier parce que t'enlèves du temps à ta famille, tu sais. Mais en même temps, comme j'ai dit à Catherine tantôt, j'ai dit que mes enfants, ils me voient heureux, tu sais.
Ouais.
Ils me voient faire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime. Fait que j'aime, tu sais, je préfère qu'ils voient ça que qu'ils voient quelqu'un qui est malheureux puis qui fait pas qu'est-ce qu'il aime, tu sais.
Et on voit tes filles travailler à la quincaillerie.
Oui, écoute, mais tu t'en vas là, la saison des tomates, là, puis Emilia, là, elle te vend une machine de tomates.
T'en as besoin ou pas?
Oui, c'est ça. Non, exactement.
Mais la relève, la quincaillerie, parce que ta mère a 75 ans, ça fait partie de ton oncle.
La question
aussi.
Qui tue, oui. Sais. C'est, ben là, gars, on est en discussion, on sait pas qu'est-ce qui va se passer. Je suis le seul dans la famille qui pourrait le reprendre à l'instant. Ma sœur, elle habite en Italie, fait que ça, c'est pas possible. Par contre, aussi quelque chose que j'ai dit tantôt, puis là, tu sais, il y a du monde qui vont m'écrire là sur Instagram, sur Facebook quand je dis ça, mais tu sais, moi, je trouve ça beau une fin. Puis des fois, une fin, ça fait 65 ans la quincaillerie, bientôt 66. Ça se peut là que ça se finisse, tu sais. Je veux dire. Et puis...
Mais ma question va être plus précise.
Ouais.
Est-ce que tu pourrais envisager de vendre à quelqu'un d'autre la quincaillerie?
Si tu me poses la question à moi, je vais te répondre, moi, je ne crois pas. Parce qu'on est tellement implanté, ancré dans ce commerce-là, ma mère, mon oncle, moi qui est moins là, mais qui est quand même là, tu sais, même si je suis pas là physiquement, je veux dire, c'est difficile. D'un, de deux, on prend un autre volet, mais c'est peut-être une autre conversation. Côté arme à feu pour aller à la chasse, c'est un peu plus difficile aussi, tu sais. Fait que, mais c'est difficile. Faut qu'on soit là, tu sais.
Non, mais c'est où tu le fais toi-même, tu l'opères, où c'est terminé.
Ben, où je trouve quelqu'un pour l'opérer, mais faut que j'aie confiance. Puis on s'entend, tu sais, avec le manque de main-d'œuvre aussi, tu sais, gars, je suis à radio, je fais un appel. Si quelqu'un cherche une job comme directrice ou directeur des opérations à la quincaillerie Dante, faut me trouver sur Facebook ou Instagram. Vous êtes mieux d'avoir un bon CV puis de la patience.
Mais tu parles de manque de main-d'œuvre dans tes restos, ça se passe comment?
Mais dans nos restos, on avait une manque de main d'œuvre, mais maintenant on est rétabli. Tout le monde est là, on manque pas de monde, on a même des CV, fait que c'est pas si pire. Puis en plus là, l'été s'en vient, fait que tu sais, on a les étudiants qui débarquent encore pour des jobs d'été, fait que ça va, tu sais. Mais à la quincaillerie, c'est plus, tu sais, c'est difficile. C'est un magasin, c'est un pignon sur rue. Je veux dire, ça prend vraiment quelqu'un de particulier pour être capable de venir rouler une place comme ça, tu sais. Et ouais, puis tu sais, je veux dire, Elena est tough, là.
Avec moi,
quand même, elle est tough.
Mousse, Elena, c'est une boss qui est quand même exigeante, tu sais, je veux dire, tu sais, puis elle a dit qu'elle veut prendre plus de temps, mais elle a de la difficulté de sortir de son commerce, là. Tu sais, je veux dire, on se cachera pas ça, là. Tu sais, je pense que pour elle, c'est son plaisir. Puis moi puis ma sœur, on lui a toujours dit, gamin, prends ta retraite, prends du temps. Mais tu sais, moi, à la longue, je regarde ça puis je me dis, pourquoi? Elle est heureuse. Elle vient à la quinquérie. Elle parle aux gens. Elle va prendre un café. Elle te voit, elle te croise, elle te jase ça. Elle revient à sa quinquérie avant quelques machines de tomates, des machines à pâtes. Elle partage sa passion de la cuisine. Elle ferme la quinquérie. Elle va l'autre côté de la rue. Elle va manger dans un de mes restos. Eh ben, tu sais, elle paye pas. Je veux dire, elle retourne chez elle. Je veux dire, c'est pas si pire, là, tu sais, comme vie. Ça peut être pire.
Mais il y a une chose que je suis fier d'avoir entendu, c'est que tu feras pas de sauce barbecue pis t'auras pas de produits dérivés qui ressemblent pas à ce que t'es.
Jamais. La vision de l'entreprise était vraiment fixée depuis le début. Nous, on reste dans notre créneau qui est la cuisine italienne ou des produits italien, puis crée-moi qu'on se fait solliciter à tous les jours, à toutes les semaines, des ribs de ci, de ça, des croquettes de poulet, puis je suis comme, vraiment, ça me tente pas. Fait que tu sais, on va rester dans notre créneau, puis le plus possible, avoir des produits faits au Québec. C'est un peu ça. T'sais, on veut faire les produits ici. Si on peut pas, peut-être dans le pays, au Canada, si on peut pas, mais c'est sûr qu'après ça, on va aller voir en Italie. Mais avant tout, si on est capable de faire nos produits ici au Québec, c'est ça qui nous rend heureux, pis c'est ça qui est important pour moi puis Michele. Donc, tu sais, c'est sur notre peau, c'est toujours Montréal, Italie, puis c'est un peu le pont qu'on a fait avec l'émission. Une première partie de l'émission est à Montréal, l'autre deuxième partie de l'émission est en Italie. Fait qu'on fait toujours le pont avec Montréal, Québec et l'Italie. Fait que c'est un peu ça.
Stéphano, merci beaucoup d'être
venu. Merci à toi, Paul.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Les Remparts de Québec qui sont les champions de la Coupe Memorial.
Oui, pour la troisième fois de leur histoire, ils ont joué un match quasi parfait, victoire de 5-0 sur les Thunderbirds de Seattle. Ils avaient gagné la Coupe en 1971, c'était à l'époque Guy Lafleur, la vedette de l'équipe. 2006, c'était Radulov, et hier, victoire de 5-0. Donc, un quatrième titre de suite pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y a Titan d'Acadie Batters, les Huskies de Rouyn-Noranda et les Sea Dogs de Saint-John qui avaient gagné les trois tournois précédents. Et pour parler de cette victoire, on va accueillir le président de l'équipe, Jacques Tanguay. Salut Jacques!
Bonjour Alain, comment vas-tu?
Ça va bien. Et toi, comment ça va?
Ça va sur un nuage. Ça s'est déroulé très rapidement. Et on s'est envolé hier soir 11h de Kamloops, où on vient d'arriver à Québec le matin à 7h.
Et là, la victoire d'hier, Jacques, c'est l'aboutissement de 5 ans de travail. Là, j'écoutais les entrevues de Patrick. Ça a commencé avec le repêchage de certains joueurs qui sont toujours avec vous et qui étaient là hier pour cette victoire contre Seattle.
Écoute, lorsque j'ai été rechercher Patrick en Floride il y a déjà 5 ans, c'était l'objectif qu'on s'était donné, c'était le but qu'on s'était fixé. Puis on a bâti cette équipe-là, là, pierre par pierre. À chaque année, on a rajouté les éléments qu'on voulait en préparation d'une année très importante. On pensait que ça pourrait arriver l'an passé. Malheureusement, ça s'est terminé rapidement lors d'un septième match contre Shawinigan. Et cette année, les joueurs ont été exceptionnels.
Dans quel état d'esprit vous vous êtes présenté à Kamloops? Parce qu'on parlait beaucoup de Seattle avant que le tournoi débute. On disait que c'était l'équipe favorite pour remporter le tournoi. Et pourtant, vous les avez battus deux fois là, cette semaine.
On les a battus deux fois, mais ça fait plus de deux mois là, que ça a commencé avec les séries éliminatoires dans la Ligue d'hockey junior. Puis cette année, particulièrement, il y avait quatre équipes, Halifax, Gatineau, Sherbrooke, qui étaient des équipes vraiment dominantes, qui aurait pu se rendre jusqu'au bout puis qui aurait pu aller à la Coupe Memorial. Fait que on n'avait rien à envier au club de l'Ouest puis de l'Ontario. Fait qu'on est arrivé là-bas après avoir gagné la Coupe Gilles Courteau avec toute la confiance que nos joueurs avaient. Ils ont été préparés par Patrick de façon exceptionnelle. Puis surtout, ils savaient tout le travail qu'ils avaient accompli durant l'année, à quoi il allait servir. Puis c'est les résultats qu'on a connus hier.
Le hockey junior, on le sait, c'est un cycle. Là, vous arrivez à la fin d'un cycle chez les Remparts. Il y a plusieurs joueurs qui vont quitter. Leur carrière junior est terminée. Mais c'est probablement aussi la fin d'une époque, parce qu'on parle beaucoup de Patrick et de son avenir, mais toi-même t'as laissé entendre là, que t'étais peut-être prêt à laisser ta place à un autre. Là,
Alain, on va participer aux cérémonies demain à Québec. On va profiter du moment présent, mais très rapidement, ma décision est déjà prise, fait que très rapidement, je vais annoncer les couleurs cette semaine.
Est-ce que tu connais la décision de Patrick aussi?
On en a parlé un petit peu, mais je laisse à Patrick tout le soin là, de prendre ses propres décisions. On est des amis, on est ensemble depuis 26 ans maintenant dans l'hockey junior. On a acheté les Remparts de Québec il y a 26 ans. Malheureusement, on a été obligé de s'en départir à un certain moment donné à travers les années, mais on a vécu des expériences, on a vécu des moments exceptionnels, puis on en a vraiment profité. Puis les athlètes puis la population de Québec nous ont fait profiter également.
On regarde ça souvent de l'extérieur, puis on a l'impression que la Ligue de hockey junior majeur du Québec, quand vient le moment du repêchage de la Ligue nationale, est moins cotée que la Ligue de l'Ouest ou la Ligue de l'Ontario. Avez-vous cette impression-là ou si vous constatez la même chose? Puis est-ce qu'on ne se rend pas compte justement que c'est une forme de préjugé sur le Québec?
Je ne pensais pas nécessairement de préjugé, mais ça dépend toujours de la visibilité des recruteurs également, de la proximité des recruteurs envers certains athlètes. Et cette année, les joueurs des Remparts de Québec qui ont peu gagné au niveau des trophées individuels ont démontré que les joueurs du Québec là étaient vraiment d'un autre niveau. Prenez l'exemple de Malatesta qui a été le joueur par excellence de la série. Il était un choix de cinquième ronde de la Ligue nationale. Il n'a pas été nommé sur l'équipe Canada Junior cette année, probablement par manque peut-être de visibilité ou parce que les instructeurs préféraient des joueurs qu'ils connaissaient, les instructeurs de l'Ontario de mai. Ces joueurs-là ont démontré durant la Coupe Memorial là, qui était vraiment à l'avant-plan des meilleurs joueurs canadiens.
Ça prouve que s'il y avait un club comme les Nordiques à Québec, ça aiderait peut-être au niveau du recrutement.
Ben, probablement. Puis également de voir de plus en plus d'instructeurs québécois participer aux programmes nationaux. Ça, c'est très important.
Parce que la Ligue n'a pas à avoir de complexe. Là. Vous êtes la quatrième équipe du Québec à remporter la Coupe Memorial, je le disais tantôt. Là, quatre tournois consécutifs où le Québec remporte le trophée. Et pour toi, Jacques, ça fait une pas pire année. Rouge et Or champion football universitaire puis les Remparts champions au hockey junior.
Oui, ça fait. J'ai vécu en 2006 puis je le revis encore cette année. Et tu sais, Alain, avec le Rouge et Or, j'ai eu l'occasion de le gagner 11 fois la Coupe Vanier, mais dans le hockey junior, pour se rendre jusqu'au bout, c'est probablement le sport à travers le Canada là, qui demande qui demande le plus de succès là, sur une longue période de temps, parce que les séries éliminatoires de la Coupe Memorial, là, c'est interminable. Ce qu'on vient de vivre là, dans la dernière semaine, c'est 12 jours sur la route à Kamloops. Je veux dire que les athlètes avaient besoin d'être concentrés puis d'être dans leur bulle durant ces 12 jours-là.
Et je vais terminer en te posant une question. Je sais pas si tu as vu les conclusions du comité là sur bon tout ce qui est arrivé dans le hockey junior au cours des dernières années là. Et on recommandait entre autres qu'il y ait moins de représentants d'équipes sur le conseil d'administration de la ligue, plus de présence féminine et des gens issus des diverses communautés. Comment t'as accueilli ça et comment tu penses que ça va être accueilli au niveau de la ligue?
Je pense qu'au niveau de l'équilibre avec les femmes, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, au niveau des... c'est une ligue qui est privée. Puis les membres, c'est les propriétaires des équipes, généralement. Ils peuvent être aussi bien représentés par une femme que par un homme. Mais je pense pas que ce soit le rôle du gouvernement d'aucune façon de se mêler d'une ligue comme la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On a eu une très, très mauvaise presse cette année, mais ça s'est... faut faire attention un petit peu. Ça remontait à des événements qui dataient d'il y a plusieurs années. Puis ça ne s'est pas passé juste au hockey, hein. Ça s'est passé dans les universités, ça s'est passé dans les cégeps, ça s'est passé dans toutes les équipes sportives, tous sports confondus. Et le hockey étant notre sport national, puis celui qui est le plus en évidence, ben, on a vu des gens qui ont mal agi dans les dernières années. Ils se sont fait taper ses doigts, les conseils d'administration ont changé. Il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là, mais je pense pas que ce soit le rôle du gouvernement de se mêler des circuits privés comme la Ligue de hockey junior-major du Québec.
Ben, merci beaucoup, Jacques. Félicitations encore une fois. Tu féliciteras tout le monde de notre part.
Je te remercie beaucoup, puis merci de nous avoir suivis avec autant d'intérêt.
Merci. Salut, Jacques. Merci.
Alors, Jacques Tanguay, le président des Remparts de Québec. Mais la réponse est assez claire, là. Je connais pas les propriétaires. C'est comme la Ligue nationale.
Ah oui.
Et c'est pas vrai que les propriétaires vont laisser aller le contrôle à un conseil d'administration.
Alors, comme il dit, c'est aux équipes. S'ils veulent déléguer une femme au conseil d'administration,
oui, ça, c'est correct, là, mais...
Ça, mais ils pensent pas qu'ils vont lâcher le morceau, là.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Nous avons de la visite en studio ce matin. C'est un nouveau collègue du FM 93 à Québec qui, grâce à des extraits de son spectacle, a pu provoquer de grands moments de bonheur chez nous, oui, chez nos auditeurs auditrices. Pierre Métat est avec nous, bonjour.
Bon matin, merci Paul de m'accueillir, je suis content d'être là.
Qu'est-ce qui vous amène en ville, ici, à Montréal?
Je suis en tournage parce que j'ai une série de 4 émissions qui va passer à TVA cet automne qui s'appelle Brasserie chez PA. C'est des spéciaux d'une heure et je reçois plein de monde, là, des humoristes, beaucoup de musiciens, mais surtout, moi, je voulais faire découvrir des gens qu'on voit pas souvent. Fait que j'ai plein d'artistes un peu obscurs qui sortent de partout, mais qui sont des merveilleuses découvertes. Puis je vais aussi dans les affaires que j'aime. Comme hier, je recevais Annie Richard puis Jean-Philippe Rousseau qui ont écrit Motel Mystère. Puis, fait que on a parlé des motels à travers le Québec, puis tout ça. Mais c'est un gros show qui se passe dans une brasserie avec un public, tout ça. Fait que là, on est 2 jours de tournage hier puis aujourd'hui. Puis à matin, ça, je te trouvais de bonheur. c'est ça, tu sais, faire 2 chiffres, là. C'est comme des chiffres de soir, des chiffres de jour. Mais je suis très content. Fait que c'est ce qui m'amène en ville.
Est-ce qu'on peut entendre le premier extrait, juste pour mettre la table, Catherine?
Oui, en fait, il faut dire que Pierre Métot, on a beaucoup ri du spectacle Faire le beau, d'ailleurs, qui se termine cet été.
C'est pas encore complété, la tournée du
spectacle?
Non,
je finis le 15 juillet. En fin de semaine, malheureusement, Val-d'Or a dû annuler parce qu'on était là vendredi, samedi. C'est encore drôle, hein, ça. On la connaît, la situation, là. C'est pas du fake, là. Mais il y a des gens qui font « Ah, regarde, c'est ça, vous allez vous faire payer par le gouvernement pour pas aller faire le show. » Il y a des feux, chum. C'est ouais. Ça. C'est pour ça qu'on y va.
Mais bon, je te jure, honnêtement, j'ai l'impression depuis 2-3 jours de replonger à l'époque de la COVID.
Ben oui.
Avec tous les complotistes en tête, là, Maxime Bernier, qui est, je le rappelle, chef d'un un parti, ouais, un huitième de parti.
Il y a un autobus.
Oui. Puis qui est candidat dans une élection, puis qui nous parle des. Puis là, toute sa gang se fait aller, là. Puis je reçois là, des sortes de messages étranges. Avec des vidéos de 15 feux qui s'allument en même temps. Ouais, c'est juste qu'on n'a pas des petits bonhommes de Greenpeace qu'on voit courir en train de mettre le feu. Puis il y en a qui croient ça, là, dur comme fer. Puis qui. On a comme cette impression de revivre la COVID. Mais on continue quand même.
Mais c'est ça pour dire que quand je suis arrivée avec les extraits de ce sketch numéro Ma vie à 600 livres. Oh. Explique, PA, comment toi t'as réagi quand on a entendu. On va entendre les extraits.
Non, OK.
Puis okay. Après ça, on en reparle. OK, on va faire ça.
Les autres là-bas, ils se déplacent plus! Ils sont étendus dans un... sont répandus. Hey, on dirait une meringue qui n'a pas tenu sur une tarte au citron. C'est comme avec 2 talons cornés. La tête et l'autre bord de la bosse. C'est quand est-ce que tu te dis consciemment, parce que c'est pas du monde fou, là, me lève plus. Me lève plus, mon petit chum va me faire à manger 24 sur 24. M'a resté écrasé dans le lit. Le CLSC va m'envoyer quelqu'un une fois par semaine pour me laver à fourche à mop. Il est où le bonheur? Il est où?
On a tellement d'autres extraits aussi.
Oui,
qui ont
non,
passé.
Je sais, mais si tu savais, parce que moi, j'étais à Québec, fait que je vous ai pas entendu passer l'extrait ce matin-là. Puis là, j'avais plein de monde qui m'envoyait des textos. Hey! Ton extrait de La vie à 600 livres a passé à Arcan un matin. Je fais, ben non. Je ne peux pas que ça aille passer là. Ça passe pas à radio, cet extrait-là. Ils font, non, 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 ils l'ont fait jouer même trois fois. Je fais, ah non, arrête de niaiser. Là, j'en recevais un autre. Hey, on a entendu ton extrait un matin, 98.5. Je fais, ben, ils l'ont passé.
Mais je veux savoir, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu, je dirais, le flash d'écrire là-dessus?
Ben, parce que moi, Ma vie à 600 livres, je trouve que c'est... C'est trop over. Parlez-nous de la situation des gens, de l'obésité morbide, t'sais, genre oui, t'sais, du processus pour aller là. On est-tu obligé d'y voir avec une débarbouillette qui cache le poil de zone, flambant nu dans un lit, en train de se faire tasser par 8 personnes parce qu'ils sont pas capables de se tasser? On n'a pas besoin d'aller là. C'est trop du sensationnalisme, puis ils ont mis ça beaucoup trop gros, selon moi. Puis moi, ça me fait perdre un peu le petit sentiment de « Ah! » Je suis désolé pour eux autres ou un « Ah, j'espère que ça va bien aller. Oh, j'espère qu'ils vont réussir. » Non, tu fais juste comme « C'est quand le prochain extrait? Est-ce qu'on va voir trop d'affaires? » Fait que c'est pour ça que je fais « OK. » Tu peux pas parler nécessairement des problèmes d'obésité de nos jours parce que t'es tout de suite grossophobe puis tout ça. Moi, j'avais l'avantage, ben là, plus là, là, mais de peser 325 quand j'ai commencé à le faire, le numéro. Fait que, tu sais, ça me dédouanait un peu. Mais surtout, c'est ça, c'est que moi, je parle du sensationnalisme. À quel point les Américains, pour n'importe quelle niaiserie, sont capables de builder ça puis de faire un show là, avec des millions de téléspectateurs. Et moi, ce qui m'épatait, c'est qu'ils n'ont donc bien trouvé du monde pour cette émission-là.
Écoute, Fabien Cloutier, c'est Docteur Bouton, lui. Ça fait...
Mais c'est dans le même genre,
oui,
en fait,
c'est,
mais
c'est ça, oui, c'est ça.
Les émissions de TLC, c'est ça, en fait.
Oui, c'est ça. C'est comme, ouais. J'ai-tu besoin pendant une heure de voir du contenu de Bouton?
Fabien, non. Oui.
Oui, oui. Ben,
il nous envoie des photos.
Oui, ben, il y a un plaisir coupable quand même, là, tu sais, comme Opération Botché aussi, c'est le fun.
Mais on va écouter un autre extrait aussi parce que.
Ah, non.
Ouais, ouais, l'émission s'appelle Ma vie à 600 livres. Il start ça à 600. 580 d'un estime meg. Il start ça à 600. Il y avait une fille de 920 livres. Tu sais quoi, 920 livres? C'est une Fiat, c'ti. C'est une Fiat. Tu y mets quatre roues, une plaque, on descend à Hogan Quinn. Kiri, voyons donc!
Commentaire?
Ben, je suis pas allé au Hogan Quinn.
Il n'y avait pas vraiment quelqu'un de 900 livres.
En fait, c'est 974 livres, la madame, qu'elle pesait.
Pardon?
974
livres.
On n'est pas loin de 1000 livres. Ouais, puis le pire, c'est qu'il y a une Québécoise qui a battu ce record-là. Qui a pris le 1000 livres. Ouais. Mais elle s'était voulu, elle. Elle voulait vraiment dépasser le 1000 livres. Elle voulait être la femme la plus pesante de tous les temps. Fait qu'elle a dépassé 1000 livres. Mais c'est ça, tu sais, ça s'appelle Ma vie à 600 livres. Ils partent ça à 600. Moi, dans ma vie, j'en ai pas croisé ben du monde à 600. Mais ça fait 15 ans que ça dure, 4 fois par semaine, 2 par émission.
Ouais, c'est triste comme émission quand même.
Tu te dis, ouais, il doit y avoir un petit problème aux États-Unis du côté de l'alimentation. Parce que, il me semble qu'ils en trouvent trop. Tu sais, pas genre nearly 600, là, pas proche 600. Là, ils vont trouver du 750, 800. Hey, ça commence.
Ouais. T'as un autre extrait, je pense.
Oh,
il rentre dans la maison avec une genre de bâche en cuir jaune, tu sais, comme pour sortir les dauphins à Marineland. Il envoie ça à côté du lit, il roule la grosse dedans, il arrive pour la sortir, puis quand il arrive dans le code de porte, il va « Oh, 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 oh! Ça passe pas! » Ça passe pas? Ça, c'est pas comme un divan, tu peux pas dire « Chris, on va enlever les pattes. » Mais non, ça marche pas de même. Il fait « Non, on va enlever le mur! »« On va enlever le mur! » Pis là, ils le remettent pas au cas qu'elle revienne. S'ils sont pas capables de la sortir, madame, ils sont pas capables de la rentrer.
Là, tu remarques, ça fait des dizaines de fois, je pense, qu'on les joue, ces expériences.
On
braille
à chaque fois, là.
Oui, encore,
mais ça doit être effrayant comme réaction dans la salle.
Oh, oui, non, mais honnêtement, j'ai vraiment une super réaction pour mon show. Moi, j'aime manquer de raffinement volontairement. Tu sais, je suis capable de bien parler, mais en même temps, j'aime ça le faire de même, genre comme autour d'une table là, avec des chums. Puis je pense que c'est ça que le public aime, tu sais, c'est que il y a une madame à un moment donné qui m'avait dit, moi ce que j'aime de vous, c'est que vous êtes inoffensif. T'sais, genre comme dans la vie puis tout ça, c'est comme vous pouvez dire n'importe quoi, je le sais que vous êtes pas méchant en dedans. T'sais. Fait que oui, puis mon show, ben écoute, je vois à gauche, à droite, partout, il y a des réactions comme ça tout le long.
Mais est-ce que c'est un choix de carrière que tu es en train de faire? C'est-à-dire que bon, là, la tournée se termine. Mm-hmm. Cette émission, cette courte série dont tu parles. Oui. Il y a Cœur de Trocœur.
Cœur de Trocœur aussi.
Puis l'animation d'émission du retour au FM 93. Oui. Ça veut dire pas de spectacle l'an prochain?
Pour les deux prochaines années.
OK, un choix là, que tu fais.
Oui, c'est un choix. En fait, c'est le cadeau de mes 50 ans. C'est que moi, depuis, ma fille est née le 1er août 2011. Le 6 août 2011, je partais en tournée puis j'ai jamais arrêté. Puis, tu sais, on a fait 495 représentations de la première tournée. On a fait 350 cucks de celle-là. Il y a eu la COVID entre-temps, là. Mais j'avais le goût d'être à la maison. Je suis un peu fatigué de faire de la route. Je fais à peu près entre 100 et 110 000 km par année tout le temps. Fait qu'un peu tanné de rouler, j'avais le goût d'être à la maison. Ma fille rentre au secondaire. Tout ça, j'avais le goût d'avoir une genre de vraie vie. Une vraie vie que j'ai pas eu encore jusqu'à date, t'sais. Fait que là, une petite vie de famille, rangée, tu sais, arriver, sortir de la station, aller souper chez nous, le jour, faire mes trucs, tu sais, l'été, passer du temps avec eux autres. Fait que c'était un peu ça que je voulais faire, puis...
Pourquoi la radio?
Ben, en fait, c'est ça, c'est eux autres qui ont appelé. C'est ça.
Aussi bête que ça.
C'est aussi bête que ça. Moi, je m'attendais pas à faire de la radio. Honnêtement, là, c'était même pas dans mes projets. Ben, parce que... Justement, ce manque de raffinement volontaire là, je trouvais qu'à la radio ça passait pas bien. C'est genre, j'écoutais justement des Sylvain Bouchard, Nathalie Normando, puis je les entends parler, puis tout ça, puis ça coule, puis ça, puis je me dis non, moi c'est pas de même, j'étais un peu plus boboche, un peu plus cabane à sucre moi. Fait que mais c'est ce qu'ils voulaient au 93 pour remplacer Stéphane le matin, puis l'été, et ça vraiment bien été. Ça a vraiment bien été. Puis je suis tombé en amour avec ces médias-là. Me lever à 4 heures, j'adorais ça. D'aller faire de la radio à 6 heures le matin, que j'ai tellement aimé ça.
Pour un été, ça fonctionne. Après 10 ans, t'en reparleras.
Ouais, non, c'est ça. Non, mais moi, comme en post-traumatique, genre un peu. Mais, fait que c'est ça. Fait que j'avais le goût d'essayer autre chose. J'avais des offres pour la télé. Puis j'avais le goût de faire de quoi proche de chez nous. Tu sais, tous les tournages que je fais, tous les trucs, les séries que je tourne, c'est toujours à Montréal. Puis ça, moi, j'habite Québec. Là, ils me font une offre à Québec, à 5 minutes de chez nous. Là, de 3 à 6, finalement. Je savais pas, ça fait pas longtemps que je le sais, là, que ça va être de 3 à 6. Puis c'est ça, j'ai le goût d'être chez nous un petit peu. J'ai le goût d'être...
Mais est-ce que ça veut dire que, mettons que ça va bien, puis que la réaction est bonne, mm-hmm. que tu te dis, ben, peut-être que le spectacle, le prochain, ça va être très, très ouais. loin.
Moi, je me projette pas tant que ça. Okay. Tu sais, comme... la COVID nous a montré ça, là, entre autres pour les gens de la scène. Là, c'est qu'il n'y a rien d'acquis. Il n'y a absolument rien d'acquis. Tu sais, à la radio, vous avez continué quand même. Vous avez pu... Ouais. Même si c'était de chez vous, quoi que ce soit. Nous autres, là, c'était fall ball. Là, c'était fini. Là, c'était terminé. Puis on voyait les salles de spectacle aussi être sur le bord des faillites tout le temps. Ça fait que ben d'autres, comme moi, se sont dit, regarde, on va y aller... au jour le jour, on va prévoir des affaires à court terme. Fait que moi, je m'en vais faire de la radio pour 2 ans. On verra rendu là. S'il faut que je sorte un show, il est déjà prêt. Fait qu'on a un, là. On a déjà.
Et tu vas être au festival aussi, juste pour rire cet oui. été, avec un beau concept que tu as présenté souvent à Québec, ouais. les fêtes thématiques de mm-hmm. Biométhode. Là, cette fois-ci, c'est le Méga Party Rock.
Oui. Ben en fait on le fait déjà. Moi j'ai un band qui s'appelle les Pop Rock. Oui. Et ben en fait ça a starté avec les Pop Rock. Puis c'est devenu les pop-rop.
T'en dis trop vite ou...
Oui, c'est parce que c'est moi qui le disais. Fait qu'ils ont dit, comment ça tu nous traites de pop-rop? J'ai dit, non, vous sonnez trop pop-rock. Il dit, comment ça on sonne pop-rop? Je parle-tu mal à ce point-là? Et c'est devenu les pop-rop. Fait que c'est tous des musiciens qui jouent avec des grands musiciens, là, les Dan Bigra, puis Claude Dubois, puis tout ça. Mais qui trippent bien reste. C'est toujours ceux que j'ai dans mes gros shows thématiques. Fait que on fait un peu la formule des Porn Flakes. C'est que on arrive là, tu vois, c'est rock 80-90, et on invite plein de monde. Fait que Martin Deschamps, Lulu Hughes, Kim Richardson, qui c'est que j'avais? Ben, pas sur le show de Montréal, là, mais parce qu'on en fait 5 cet été, des gros shows de même. Fait que j'invite plein de gens qui viennent faire des tunes qui sont pas des tunes à eux autres. Tu sais, comme un Martin Deschamps qui vient me faire un Hurt So Good. Fait que c'est vraiment le fun parce que c'est un gros party. Le monde vient pas genre pour vendre des albums ou pour ça, vendre leur spectacle. Ils viennent là triper. C'est un gros party. Je suis là avec mon band. On fait de la musique tout le long. Puis je suis pas obligé d'être drôle. Fait que des fois, ça fait du bien.
Alors, c'est le 22 juillet ouais. au Quartier des spectacles pour voir P.A. Méthode à Montréal.
Merci beaucoup. Merci d'être venu.
Merci, mais merci à vous.
Vous écoutez Balado du dimanche, une présentation de C23. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à l'Essentiel de Paul Arcand sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un nouvel épisode tous les jours en semaine, vers midi. Après la pause, ça tient la route avec Benoît Charrette.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là,
tout près ici,
très loin là-bas,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.